Marc, chapitre 16, et au verset 20. Et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Passons maintenant dans Jean 14. Jean 14 et verset 2. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. Ensuite, nous allons dans la première épître de Jean. Première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 1. Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et lui est la propitiation pour nos péchés, et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Nous revenons maintenant dans Luc, au chapitre 12. Luc 12, au verset 37. Bienheureux sont ces esclaves que le maître, quand il viendra, trouvera veillant. En vérité, je vous dis qu'il se ceindra et les fera mettre à table et s'avançant, il les servira jusqu'ici.
J'aimerais faire deux remarques. D'abord sur la personne de celui qui est le parfait serviteur. Il nous est présenté particulièrement dans l'Évangile selon Marc, et nous venons de lire le dernier verset de cet Évangile. Il est vrai, le Seigneur Jésus est présenté dans cet Évangile comme serviteur parfait. Mais il est remarquable que cet Évangile rend témoignage particulièrement de la divinité de cette personne glorieuse. Il est serviteur, il s'est abaissé lui-même. Nous le voyons dans son humilité, mais n'oublions jamais que ce serviteur, cet homme humble, est le Fils de Dieu. L'Évangile commence par les mots « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Pas serviteur de Dieu, mais Fils de Dieu. Dieu met l'accent sur le fait que ce serviteur est Fils de Dieu. Et à la fin de cet Évangile, nous n'avons pas lu le verset 19, mais j'aimerais le lire. Le Seigneur, donc, après leur avoir parlé, fut élevé en haut dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Nous remarquons quelque chose. Il fut élevé. C'est une activité de Dieu. Le Fils de l'homme a été élevé, c'est vrai, le serviteur. Mais, alors il est ajouté, il s'est assis à la droite de Dieu. Lui-même, il s'est assis à la droite de Dieu. Il avait un droit de s'asseoir à la droite de Dieu. Et ce droit, il l'avait parce qu'il est fils de Dieu. Comme homme, Dieu lui a donné cette place. C'est aussi un aspect que nous trouvons dans la parole de Dieu. Mais le fait que le Seigneur Jésus lui-même s'est assis à la droite de Dieu nous montre clairement que ce serviteur est rien d'autre que le Fils de Dieu. Deuxième remarque, dans la réunion précédente, nous avons considéré l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie, l'œuvre achevée. Et il y a une œuvre, et ça c'est l'œuvre de la croix, et cette œuvre est accomplie. Rien ne peut ajouter à cette œuvre, et il n'est jamais nécessaire de répéter cette œuvre. C'est accompli une fois pour tout. Mais il y a aussi une œuvre du Seigneur Jésus qui continue. Et c'est le sujet de cette réunion. Le service présent du Seigneur Jésus. Et nous voyons dans le verset que nous avons lu, « Et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux. » Une coopération, c'est une œuvre du Seigneur Jésus par ses disciples. Non pas pour ses disciples, cette œuvre est accomplie, mais par ses disciples. Et c'est ce que nous voyons dans le livre des Actes. Les Actes des apôtres, nous disons, et c'est vrai, les Actes du Saint-Esprit, c'est aussi vrai, mais nous pouvons aussi dire les Actes du Seigneur Jésus. Coopération. Le Seigneur Jésus, le serviteur, coopérant avec eux. Maintenant, nous sommes des serviteurs du Seigneur Jésus sur la terre. Et nous avons une aide. Nous avons quelqu'un qui est toujours en coopération avec nous. C'est le serviteur qui est maintenant glorifié à la droite de Dieu. Quel soutien nous avons. La puissance de l'Esprit-Saint, c'est vrai, mais aussi la coopération du Seigneur Jésus dans notre service que nous rendons ici-bas pour lui.
Si d'un côté l'évangile Saint Marc, qui nous présente le parfait serviteur, insiste pour dire que celui qui servait est le Fils de Dieu, il y a quelque chose aussi de remarquable. C'est que dans cet évangile selon Jean, où le Seigneur est présenté comme le Fils de Dieu, nous avons vu dans cet évangile comment il était là pour faire la volonté de son Père. Et il nous semble qu'il y a un autre côté vu dans cet évangile selon Jean, le Fils de Dieu, celui que Jean présente comme étant de toute éternité, la parole auprès de Dieu et étant Dieu, et celui qui était venu pour faire la volonté de son Père, pour accomplir son œuvre, et qui peut, à la fin de sa vie ici-bas, dire « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, c'est accompli. » C'est quelque chose de remarquable. Et on voit ainsi toute la beauté des Écritures dans la façon dont Dieu nous présente celui qui est l'objet de son cœur. D'ailleurs, c'est dans cet évangile selon Jean qu'il est écrit à la fin de l'évangile qu'il y avait plusieurs choses que Jésus a faites, lesquelles, si elles étaient écrites une à une, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qui seraient écrits. Voilà, celui qui est le Fils de Dieu a accompli une telle quantité de choses que le monde ne pourrait pas contenir les livres qui sont écrits. Peut-être qu'il y a aussi dans cette façon de s'exprimer dans cet évangile la pensée que le service du Seigneur continue en employant ceux qui l'envoient et de telle sorte que le monde ne pourra pas contenir tous les livres de ce qui aura été accompli par le Seigneur, par le moyen peut-être et certainement de ses serviteurs. D'ailleurs, C'est dans cet évangile que le Seigneur vient dire à son disciple, « Toi, suis-moi. » J'ajouterai une pensée à ce que nous venons de dire. Dans cet évangile songeant où le Seigneur est passé comme Fils de Dieu, c'est dans cet évangile que nous voyons prendre la position de l'esclave, comme il est dit dans Philippiens 2. Quand le Seigneur, au chapitre 13, met de côté ses vêtements, se ceint d'un linge et s'abaisse pour essuyer, pour laver les pieds de ses disciples. C'est quelque chose qui nous touche, qui devrait nous toucher profondément. Dans cet évangile où le Seigneur est présenté toute la gloire de sa personne comme Fils de Dieu, il est celui qui s'abaisse aux pieds des siens pour leur laver les pieds, position, place qui était réservée aux esclaves. Célébrons du Sauveur, avons-nous chanté, l'abaissement profond, l'entière obéissance.
Dans ce verset, nous voyons le Seigneur, serviteur ou Seigneur ? Le Seigneur coopérait avec eux et confirmant la parole. Nous voyons dans ce que l'apôtre Pierre dit en acte 2 et au verset 36, on voit combien son cœur exulte quand il peut dire que toute la maison d'Israël donc sache certainement que Dieu a fait et Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Celui, ce serviteur qui avait été méprisé, Dieu l'a fait Seigneur. Et on voit juste un peu avant, justement, ce qui a été souligné tout à l'heure, ayant, au verset 33 de acte 2, « ayant donc été exalté par la droite de Dieu et ayant reçu de la part du Père l'Esprit Saint promis. » C'est comme Seigneur qui coopère avec ceux qui sont sur la terre. Et nous avons dans cet justement, dans l'Épître aux Corinthiens, il y a plusieurs services, mais un seul Seigneur. Tous les serviteurs aujourd'hui sont sous l'autorité du seul Seigneur qui, en distribuant tous ses services, en les ayant sous ton autorité, agit aujourd'hui effectivement et coopère par cela finalement dans ses serviteurs, avec ses serviteurs sur la terre. Mais souvenons-nous que maintenant, il est Seigneur, et ne perdons jamais de vue cela. Il sert, à travers ses serviteurs qu'il donne, probablement, peut-être il y a d'autres pensées complémentaires que les frères pourront amener, mais il est le Seigneur. C'est ce que Dieu a fait de lui pour le bien maintenant et la bénédiction des croyants ici-bas.
À cet égard, il y a une expression remarquable dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, ce chapitre de la résurrection, le dernier verset, nous trouvons cette expression « l'œuvre du Seigneur ». Et il nous dit d'abonder toujours dans l'œuvre du Seigneur. Pourquoi l'œuvre du Seigneur ? D'abord, parce que c'est lui qui donne des ordres, mais deuxièmement, parce que c'est lui qui coopère avec nous. Pour cette raison, cette œuvre, c'est notre service aujourd'hui, pour lui, est appelée l'œuvre du Seigneur. Et cette œuvre n'est pas seulement à l'étranger, c'est aussi dans nos pays, là où nous vivons.
Cette œuvre du Seigneur a plusieurs aspects. Dans le verset que nous avons lu en Marc, nous voyons qu'ils prêchèrent partout le Seigneur coopérant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Et c'est l'œuvre du Seigneur dans la propagation de l'Évangile. Nous avons aussi l'œuvre du Seigneur en faveur de l'Assemblée. Il la nourrit, il la chérit. Il prend soin de son Assemblée pour l'édification des saints. Et dans l'Épître aux Corinthiens, la première épître qui a été citée, il y a un seul Seigneur, mais les dons qui sont donnés sont des dons pour l'édification de l'Assemblée. Remarquons que l'exercice de ces dons est présenté après que le chemin le plus excellent, qui est le chemin de l'amour, nous soit développé. Poursuivez l'amour et désirez avec ardeur des dons spirituels. Et puis, il y a l'œuvre du Seigneur en notre faveur individuellement. Il intercède pour nous, les saints selon Dieu. Nous le voyons dans Romains 8, il intercède pour nous. Il nous vient en aide dans nos infirmités, Épître aux Hébreux. Il connaît nos infirmités, il est un sacrificateur qui sympathise avec nous et qui nous vient en aide. Et puis dans ce verset que nous avons lu la première épître de Jean, il est cet avocat qui opère lorsque nous nous sommes laissés surprendre par quelque faute pour que nous retrouvions sur la base de l'œuvre qu'il a accomplie, puisqu'il est la propitiation pour nos péchés, que nous retrouvions la communion et la jouissance de la communion avec lui. Ainsi, cette œuvre du Seigneur a un sens, une portée, je pense qu'on peut le dire, on corrigera si je me trompe, beaucoup plus étendue que simplement la propagation de l'Évangile, mais tout ce qui a trait à l'édification des saints, à la nourriture apportée à l'Assemblée, aux soins apportés aux âmes et à l'Assemblée, tout cela, c'est l'œuvre du Seigneur. Et si le Seigneur emploie l'un ou l'autre comme serviteur, c'est son œuvre à lui, ce n'est pas la nôtre.
J'aimerais bien dire quelque chose sur les signes. Et le Seigneur, coopérant avec eux, et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Rappelons encore une fois, à cette époque, ils n'avaient pas la parole comme nous on l'avait. Ils avaient parfois un morceau de l'Ancien Testament. Ils n'avaient même pas un livre. Nous, on ne peut pas s'imaginer comment ils prêchaient. Mais ils avaient surtout eu une relation avec le Seigneur. Ils l'avaient vu. Et le Seigneur les a instruits. Donc, ils partaient, ils prêchaient. Et si on lit en acte, au début de l'acte, des signes, il y avait beaucoup plus de signes. Si on pense au garçon qui tombe de la fenêtre, bouf, mort. Paul va vers lui, ressuscité, il retrouve la vie. Plus on va à la fin de l'acte, il y a d'autres signes, mais plus des signes avec des miracles. Donc au début, c'était beaucoup plus important d'avoir des signes. Par contre, aujourd'hui, le Seigneur n'a pas changé. Il peut guérir à la même manière. Pour l'instant, j'ai un jeune ami, 44 ans, en Suisse, cancer, très difficile. Les médecins lui ont dit, plus rien à faire. Mais lui, il dit, le Seigneur peut me guérir. Luc, c'est vrai, hein? Oui, c'est vrai, il peut te guérir. Mais le Seigneur a aussi peut-être un autre chemin pour toi. Laissons le travail au Seigneur. Ne cherchons pas le signe, ne cherchons pas non plus, il doit me faire guérir. Maintenant, quels sont nos signes? Qu'est-ce qui est important pour nous? Combien de mamans sont en prière pour leurs fils parce qu'il est parti loin dans le monde et il ne revient pas. La maman vieillit et elle prie 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Et maintenant, lisons un verset en Galates 6, verset 9. Galates, chapitre 6, verset 9. Or, ne nous lassons pas en faisant le bien, car au temps propre, nous moissonnerons si nous de fait ayons pas. Donc, pas arrêter. La course. Excusez, il y a des footballeurs ici. Samedi en Allemagne, c'était terrible. Dernier match, il y avait une équipe à Dortmund. Nous, on va être champions. Mais à la dernière minute, une autre équipe marque un goal. Et c'était pas cette équipe-là. Donc, jusqu'à la fin, il faut courir, il faut se battre jusqu'à la fin. Il ne faut pas une minute avant, ça va aller. Non, jusqu'à la fin. Et même si on vieillit, même si on ne voit pas quelque chose, un signe, combien de missionnaires ont abandonné un travail dans une ville, dans un pays, parce qu'ils n'ont pas vu un signe, pas un qui s'est converti. Non, jamais. Continue à son temps. Et pourquoi peut-être cette maman, elle meurt, et le fils, il vient à l'enterrement. Il vient à l'enterrement. Et puis là, il y a une simple prédication. Et là, le Seigneur touche son cœur. Il revient. La maman va le revoir au ciel. Donc, la prière de cette maman ne peut pas s'arrêter. Nous ne pouvons pas jamais arrêter un travail. Continuons un travail pour le Seigneur. Et à son temps, il va donner les récoltes. Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, même si les temps sont difficiles, mais il n'est jamais trop tard de continuer pour prêcher l'Évangile. Il y avait une fois une petite histoire, je me permettais, on n'a pas encore eu des histoires aujourd'hui, moi j'aime beaucoup des histoires. Un évangéliste allait toujours visiter un monsieur. Il continuait. La 49e fois, le monsieur s'est converti. 49e fois. Alors l'évangéliste lui demande, pourquoi ça a duré si longtemps? Pourquoi si tard? Alors le monsieur l'a dit, j'espère que tu serais venu une 50e fois. Chaque fois, ça m'a fait du bien. Mais je ne voulais pas. Donc, continuons. N'arrête pas. N'abandonne pas. Continue dans la prière et dans le travail pour prêcher, pour donner des traités, pour parler du Seigneur. Parlons du Seigneur, comme on l'a vu. Il parlait partout, à tout lieu. Il parlait du Seigneur Jésus. Chers frères, amis, continue, réfléchis à ton travail. Si tu continues, commence à travailler demain. Est-ce que tu as parlé à tous tes collègues ou à l'école? Est-ce que ton prof, est-ce que tout le monde sait que tu es vraiment un chrétien? Est-ce qu'ils le savent? Et parle du Seigneur Jésus. C'est si important. Peut-être demain soir à 6 heures, c'est le retour. C'est le retour. Le Seigneur vient et nous, on sera vers lui. Et beaucoup, peut-être ton voisin, ton collègue, il aurait dû entendre l'Évangile et tu ne l'as pas fait. Excuse, mais j'aime vous encourager à continuer dans le travail pour le Seigneur.
Donc dans ce verset de Jean 16, de Marc 16, après avoir parlé, il fut élevé en haut dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et puis le Seigneur coopère. Alors c'est très beau de voir que le siège de l'œuvre que le Seigneur accomplit aujourd'hui sur la terre, il est dans le ciel. Donc, du haut du ciel, il domine. Toute autorité lui a été donnée sur la terre et dans le ciel. Et donc, on pourrait dire, le quartier général de l'œuvre du Seigneur, il est là-haut. Et c'est lui qui dirige. Il est actif. Ici, il coopère. Puis on a parlé tout à l'heure de différents aspects de ce que le Seigneur accomplit aujourd'hui alors qu'il est assis là dans la gloire. Alors le fait qu'il est assis, c'est aussi un aspect de stabilité. C'est une œuvre qui est posée, qui vient du ciel. Et il y a plusieurs aspects. Il y a donc ici, on parle de coopération dans l'avancement de l'Évangile. On a parlé tout à l'heure, le Seigneur aussi, il travaille dans le sens où il édifie chacun de ses rachetés. Il l'édifie, il protège, il guide, il parle, il enseigne, il instruit chacun de ses rachetés du haut du ciel. Et puis aussi pour l'Assemblée, au niveau collectif, il chérit son Assemblée, il donne les dons. C'est lui qui donne les dons de chacun dans l'Assemblée pour l'édification de son corps en amour. Le Seigneur est actif. Vous savez, il y a encore une chose que le Seigneur fait du haut du ciel. On le trouve en Jean 17. On va le lire. Quelque chose en faveur. C'est la première chose qu'il fait en faveur d'un homme qui se repent et qui se tourne vers lui. Voilà une activité du Seigneur Jésus. Verset 2. Comme tu lui as donné autorité. Donc, on va lire à partir du verset 1er. Jésus dit ces choses, leva ses yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Et donc, dans l'activité que le Seigneur exerce aujourd'hui, dans ses offices du haut du ciel, c'est aussi pour la gloire du Père. C'est aussi pour la gloire de Dieu qu'il accomplit toutes ces choses. Et ensuite, il dit, « Comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. » Et donc, le Seigneur est celui qui, en personne, donne la vie éternelle à chacun, à quiconque se repent et se tourne vers lui. Alors, le Seigneur, aujourd'hui, dans ce monde, il est actif du haut du ciel, il donne. Voilà une âme qui passe des ténèbres à la lumière. C'est le Seigneur qui le donne. Il donne la vie éternelle à chacun. Et pour chacun d'entre nous ici dans cette salle, lorsque nous avons accepté le Seigneur dans notre cœur, c'est lui personnellement qui nous a donné la vie éternelle. Il ne l'a pas fait par l'intermédiaire de qui que ce soit d'autre. Le Seigneur Jésus commence par là. Ensuite, il continue. Maintenant que je suis son racheté, qu'il m'a donné la vie éternelle, il va m'édifier, il va me nourrir, me protéger, etc. Et pareil pour l'Assemblée. Et voyez, tout ça vient du ciel. La source de ce service, de cette œuvre du Seigneur, dans ses différents aspects, à son siège, dans le ciel, dans la gloire, à la droite de la majesté.
Nous voyons dans l'Épître aux Éphésiens, nous le voyons dans le ciel. Et nous sommes transférés avec lui dans le ciel. Mais là, il nous montre aussi dans le chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Voilà. La Bible vient juste de parler des dons. Il a donné des dons aux hommes. C'est celui-là qui est au ciel, qui a donné des dons aux hommes. Il nous a donné. Et il est dit encore plus loin, au verset 10, celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. C'est lui, c'est ce parfait serviteur qui est maintenant dans la gloire, qui a glorifié. Et c'est lui qui est encore actif avec ses dons. Il est coopérant. Et puis, il est dit, encore, il remplit toutes choses. Et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Alors, il a donné ses différents dons pour accomplir tout. C'est ça qui nous montre aussi, juste dans l'Épître aux Éphésiens, où nous sommes transmis dans les lieux célestes. Mais il est sur cette terre, il veut encore que nous soyons occupés de lui, qu'il veut nous tirer vers en haut. C'est ça son travail qu'il fait avec ses dons qu'il a donnés.
Notre frère nous a rappelé tout à l'heure cet engagement à avoir pour proclamer l'Évangile. Une expression qui a été dite, sur laquelle je voudrais revenir quand même. Le fait que, par ma faute, quelqu'un pourrait ne pas être sauvé. Si je lui avais dit, il aurait peut-être pu être sauvé. Nous voyons dans ce que le Seigneur a dit, ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Tout ce que nous ferons n'amènera, comme on l'a dit, c'est le Seigneur qui fait son œuvre dans les cœurs, n'amènera jamais quelqu'un à la connaissance du salut. Ça n'enlève pas notre responsabilité. Ça n'enlève pas l'engagement du cœur que nous devons avoir. Mais que nous puissions ne pas agir dans ce travail de l'évangélisation en ayant une pensée de culpabilité si jamais nous ne faisons pas quelque chose. Nous avons cité le serviteur hébreu tout à l'heure. Le serviteur hébreu, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit positivement. Ce qu'il fait agir, c'est du positif. Ce n'est pas « si je ne fais pas, alors il n'y aura pas ». C'est « il agit positivement ». Alors, effectivement, si nous voulons agir de la même façon que ce serviteur hébreu, c'est effectivement que nos cœurs soit rempli. Nous avons cette expression, je crois, dans l'Épître aux Corinthiens, à ce sujet, d'ailleurs, dans l'Épître aux Corinthiens, où l'apôtre Paul, je n'ai pas le verset en tête, mais où dit « L'amour du Christ nous étreint, en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous donc sont morts. Et afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux a été mort et ressuscité. » Alors que le motif qui nous fait agir, ça soit vraiment cet amour qui était dans le Seigneur Jésus, et non pas la crainte qu'ayant manqué, une âme ne pourrait pas atteindre le ciel. Non, ça serait mettre en doute le service du parfait serviteur et le parfait service du parfait serviteur. Lui, de lui, nous savons que de tout ce que le Père lui a donné, il n'en perdra aucun.
J'aimerais poser une question avec des sous-questions. Est-ce que le rôle, je dirais le statut de serviteur parfait du Seigneur, est-ce qu'il ne s'est pas arrêté à la croix ? Parce que dans tous les passages que nous avons lus maintenant, il n'est jamais parlé du serviteur. Le Seigneur a un service, on est d'accord, avocat, souverain, sacrificateur. Mais peut-on dire maintenant qu'il est un serviteur dans le ciel ? Déjà, dans les passages que nous avons vus, on a vu principalement qu'il était serviteur de Dieu. Bien sûr, en étant serviteur de Dieu, il a servi les siens, mais on a vu les serviteurs de Dieu. Dans les passages qu'on a lus, on ne le voit plus comme dans le ciel comme serviteur de Dieu. C'est plutôt en tant que serviteur pour nous. Mais dans les passages qu'on a lus, je ne sais pas s'il y en a peut-être d'autres, est-ce qu'on peut dire qu'il est maintenant serviteur dans le ciel. Et on a fait une petite allusion, c'est pas il a coopéré en étant le Seigneur, en étant le Seigneur, pas en étant serviteur. Est-ce que ce rôle, ce statut de serviteur ne s'est pas arrêté quand il a dit « c'est accompli » ? Voilà ma question.
Je comprends très bien ce que tu dis, et la plupart des passages que nous trouvons dans le Nouveau Testament qui parlent du service du Seigneur maintenant dans le ciel parlent du Seigneur. Mais il y a peut-être une exception. Hébreux chapitre 8, j'aimerais lire les deux premiers versets. « Or, la somme de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les lieux célestes, ministre des lieux saints et du vrai tabernacle. » Le mot « ministre » en allemand est traduit par « serviteur ». Et je crois que c'est le même mot, serviteur ou ministre des lieux saints. Ça, c'est une indication, au moins, où nous voyons que cette expression ministre ou serviteur est utilisée par rapport au Seigneur Jésus maintenant dans le ciel. Mais je crois que tu as raison, dans tous les autres passages, il est toujours question du Seigneur. Mais une chose est certaine, il a un ministère, il a un service pour nous maintenant, ça c'est clair.
D'une certaine manière, le Seigneur n'a pas terminé son service. Effectivement, l'œuvre de la rédemption a été faite, mais nous avons souligné tout à l'heure que l'œuvre de la rédemption, le service du Seigneur va bien au-delà. On pense par exemple à ce qu'on appelle la réconciliation. Le Seigneur va réconcilier. Effectivement, c'est lui qui va être celui qui va être utilisé par Dieu pour réconcilier toutes choses avec lui-même. Aujourd'hui, nous sommes réconciliés, mais les choses elles-mêmes ne sont pas réconciliées. Il suffit de voir l'état de la terre aujourd'hui. En revanche, et on a cité tout à l'heure 1 Corinthiens 15, et où on voit le Seigneur qui dit au verset 27, Dieu lui a assujetti toutes choses sous les pieds, c'est une citation du psaume 8, je crois. Or, quand il dit que toutes choses sont assujetties, il est évident que c'est à l'exclusion de celui qui lui a assujetti toutes choses. Mais quand toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Le service parfait du Seigneur, c'est bien que Dieu soit tout en tous. C'est le conseil éternel du Père, et le serviteur va jusqu'au bout. Il y a l'œuvre, effectivement, de la rédemption, l'œuvre de la croix, sur laquelle tout est basé, mais ici, c'est jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous. On ne comprend pas la profondeur de cette expression, ce que ça veut vraiment dire, jusqu'où ça va. Dieu, tout en tous. Mais effectivement, il est plutôt parlé du Seigneur après, quand il est glorifié. Mais il me semble quand même qu'on peut dire que l'homme, le premier Adam, a été ce serviteur défaillant, dans lequel Dieu, à qui Dieu avait mis toute la création entre les mains, tu domineras sur elle. Le second homme, Adam, et c'est bien ici comme cela qu'il est présenté ici, le second homme, comme homme, il va réconcilier toutes choses avec Dieu, et jusqu'à ce moment où toutes choses lui auront été assujetties, alors Dieu sera tout en tous. Ça fait partie, il y a le millénium, il y a tous ces jugements qui vont arriver avant le millénium, il y a le millénium, il y a les jugements après le millénium, et tout cela, effectivement, c'est comme roi que le Seigneur va les exécuter, mais c'est encore au service de Dieu pour rétablir cet ordre. C'est les choses telles que Dieu les a dans sa pensée, les réconcilier avec Dieu. Et tout cela, c'est encore, me semble-t-il en tout cas, le service du Seigneur.
Puis encore le verset Marco en hébreu 7. Hébreu 7, versets 24 et 25. Mais celui-ci, parce qu'il demeure éternellement à la sacrificature qui ne se transmet pas. De là vient aussi qu'il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder pour eux.
La note d'Hébreux 7, la note O au verset 6. Maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent. La note O nous dit « service officiel » comme Luc 1, verset 23, « ailleurs, administration ». Donc le terme peut être traduit par un service ou une administration, mais c'est quelque chose d'officiel. Et la note que tu as mentionnée mentionne trois autres versets qui est utile. On aboutit à ce verset-ci de cette nuit.
Avec de telles questions, nous comprenons nos limites. Nous comprenons ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, nous connaissons en partie. C'est demain que nous connaîtrons complètement, effectivement, où nous arriverons à faire la jointure entre les choses qui nous semblent incompatibles. Mais toutefois, effectivement, la question se pose, que le Seigneur nous garde dans l'humilité, justement, dans l'humilité de notre finitude comme être humain, de notre condition ici-bas, dans des corps de chair, et non pas dans nos corps glorifiés, ou alors nous connaîtrons, nous comprendrons comme nous avons été connus. Effectivement, je ne suis pas sûr qu'on puisse trancher sur cette question-là.
Peut-être qu'il faut faire la différence entre les mots serviteur et administrateur. Un serviteur, c'est celui qui accomplit une œuvre et le Seigneur a achevé l'œuvre que le Père lui avait donné à faire. Et la base de tous les plans de l'accomplissement des plans et des conseils de Dieu et à l'égard de cette première création et à l'égard de la nouvelle création est posée, il n'y a absolument rien à y ajouter. Mais dans le temps présent, il est l'administrateur, on l'a eu, je crois qu'on l'a cité, Hébreux 8, verset 6, « Maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, un ministère ou une administration. Ce qu'il a fait, l'œuvre qu'il a accomplie, et sur la base de laquelle le conseil de Dieu s'accomplisse, doit maintenant, dans le temps, être administré jusqu'au jour où il sera dit « c'est fait ». Où tout sera complet. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence, je suis d'accord, entre ces deux mots, serviteur et administrateur. Mais il me semble qu'il y a peut-être une nuance à faire. D'une part, le serviteur a achevé son œuvre, mais ayant achevé son œuvre, il administre, si j'ose dire, les résultats de son œuvre jusqu'au jour où cette administration arrivera à son plein développement, à sa perfection, quand tout sera parfait et introduit dans la gloire. Je ne sais pas si je me suis bien fait expliquer, mais si je me suis bien fait comprendre, pardon, mais il me semble qu'il y a peut-être une légère différence entre ces deux mots, ce qui n'enlève rien à ce que nous éprouvons de précieux dans ce que le Seigneur accomplit et pour donner la vie éternelle, comme cela a été dit, et pour entretenir cette vie à chacun de nous, et pour l'édification et la formation de son assemblée, qui se fait pendant le temps. C'est le temps où Dieu forme, amène des âmes à lui, forme son assemblée. Il viendra un jour où, c'est ce que nous trouvons en Apocalypse 21, quand nous est présenté l'état éternel, il sera dit, c'est fait.
Si on se tourne vers Jean 14, nous pourrions peut-être dire que le Seigneur Jésus est comme parfait serviteur sur la terre, ayant accompli toutes choses comme il le fallait, selon la volonté de Dieu, qui maintenant est dans la gloire du ciel, et le ministre, il n'a pas seulement la fonction, mais il a la dignité aussi de préparer l'état éternel pour nous. Et c'est très joli. Tout à l'heure, on a dit que il est le siège de l'œuvre du Seigneur, elle est dans le ciel. La finalité aussi, elle est dans le ciel. Le résultat de l'œuvre du Seigneur qu'il aura accompli, que ce soit jusqu'à la croix ou après la croix, le résultat, c'est pour le ciel. C'est pour remplir la maison du Père. Pour la gloire du Père, on pourrait dire. Et il dit, je m'en vais, je vais préparer dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. C'est aussi quelque chose de mystérieux. Mais c'est quelque chose qu'il est en train de préparer. Je vous préparerai une place et je viendrai vous chercher. Je vous emmènerai là-bas. Alors pour nous, c'est une espérance qui fait du bien à l'âme. Nous savons que nous allons le voir. Nous allons entrer dans sa gloire. Et nous allons entrer dans la maison du Père.
Nous avons vu qu'un des services du Seigneur pour nous, maintenant là-haut dans le ciel, c'est d'intercéder pour nous. Combien cela doit nous encourager. Le Seigneur, il intercède pour nous. Même si nous n'avons plus l'énergie, l'envie de prier, le Seigneur intercède pour nous. Et rappelons-nous ce merveilleux verset, que le Seigneur, ces merveilleuses paroles que le Seigneur adresse à Pierre. Satan va chercher à vous cribler. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Il n'a pas dit, j'ai prié pour toi pour que tu n'aies pas d'ennui, pour que tout se passe bien. Et nous savons tous qu'il y a ces difficultés, ces problèmes par lesquels nous passons. Parfois de notre faute, parfois comme épreuve. Eh bien, écoutons le Seigneur nous dire, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas.
On peut citer, à propos de ce qui vient d'être dit, ce verset, je crois qu'on l'a dit peut-être Romains 8, mais qui est très précieux, Romains 8, 34. C'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est aussi ressuscité, qui est aussi à la droite de Dieu, qui aussi intercède pour nous. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Et alors, il y a toute une liste, tribulation, détresse, etc. Et puis, on termine, Paul peut dire, je suis assuré que rien de tout cela ne peut me séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Quelle chose que cette intercession du Seigneur, intercesseur divin, intercesseur dans le ciel, pour nous qui sommes sur la terre, il intercède pour nous. Celui qui est vivant, celui qui est assis à la droite de Dieu, quel amour que le sien. Cet amour qu'il a manifesté tout au long de sa vie pour nous, on l'a dit, il a prié pour Pierre, eh bien, il veut aussi continuer à prier pour chacun de nous, chacun de ceux qui connaissent des difficultés, des épreuves, des tribulations, des détresses. Il intercède pour nous. que nous puissions goûter cela. Ce grand sacrificateur dont il nous est parlé en Hébreux 4 aussi, que nous puissions, qui sympathise à nos infirmités. Alors on peut s'approcher avec confiance pour prier aussi, savoir que le Seigneur lui-même intercède pour nous.
Je vais vous préparer une place. Quelqu'un a dit, le Seigneur nous a préparés pour ces places, c'est à la croix. Nous avions besoin d'être préparés pour ces places. Nous, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, ne peuvent pas entrer dans cette maison du Père. Nous avions besoin d'être préparés pour ces places. Et ici, c'est autre chose. Je vais vous préparer des places. Pas vous préparer pour les places, mais préparer ces places pour vous. Et combien nous voyons tout le cœur du Seigneur quand il dit ça. Et nous y voyons dans ces chapitres de l'Évangile selon Jean aussi le travail d'un parfait serviteur, d'un parfait pédagogue. Le Seigneur avait été serviteur au milieu des siens, au milieu de ses disciples. Il avait traversé la terre avec eux quelques 3 années et demie. Et là, il s'en allait. Il s'en allait au ciel, comme on vient de le dire. Et la première chose dont il les occupe, c'est la destinée. C'est ce but qu'il place devant eux. Après, il leur parlera des ressources. Il les introduira en relation avec le Père. Il les introduira en relation ou sous la conduite du Saint-Esprit, ou la direction du Saint-Esprit, dans ce même chapitre 14. Après, il leur montrera toutes les épreuves. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi, cette opposition qu'ils auront dans ce monde. Mais la première chose dont il les occupe, c'est cette maison du Père. La maison du Père, c'est la maison des enfants, c'est là où les enfants sont. Et c'est bien ici ce que le Seigneur veut faire. Mais afin que là où moi je suis, ils y soient aussi. Je vous prendrai auprès de moi afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. C'est dans le chapitre 17, je crois qu'on voit cette expression que je viens de citer. Je m'en vais, je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. Le désir du Seigneur, c'est de nous avoir près de lui. Nous sommes l'objet de tout son service, ce service qu'il a accompli effectivement jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et le désir de son cœur, c'est de nous avoir près de lui dans cette maison du Père, dans la maison de son Père. Et afin que là où moi je suis, vous, vous soyez aussi. Quelle perfection dans ce serviteur qui amène des êtres coupables, perdus, misérables tels que nous étions, dans une condition telle, propre à la maison du Père, et qui sont là où lui, cet homme parfait qui a traversé la terre parfaitement, et maintenant, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi.
Je vais juste ajouter dans cette prière du Seigneur à son Père en Jean 17, quelque part il reprend ce qu'il dit là en Jean 14, « Je vous prendrai auprès de moi afin que là où moi je suis, vous aussi vous soyez. » C'est sa présence qui est importante. Là où moi je suis, vous aussi. Et en Jean 17, il fait cette prière et on peut lire le verset 24. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donné, que là où moi je suis. Là aussi, il redit un petit peu la même chose, il s'adresse à son Père. Que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Être avec lui. C'est le désir du Seigneur que nous soyons avec lui, nous prendra auprès de lui quand il reviendra, et ça sera pour être avec lui, pour voir sa gloire.
Il y a ce verset que nous avons lu dans Luc 12, au verset 27. « Bienheureux sont ces esclaves que le maître, quand il viendra, trouvera veillants.
En vérité, je vous dis qu'il se scindra et les fera mettre à table, et s'avançant, il les servira. En quoi consiste ce service ?
Je voudrais souligner une chose concernant l'action du Seigneur à notre égard pendant le temps de notre pèlerinage sur la terre. Je ne sais plus si nous l'avons lu, mais au chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, il est dit « En ce qu'il a souffert lui-même, étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés. » Puis au chapitre 4, au verset 14, « Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses, comme nous, à part le péché. Le Seigneur, s'il exerce cet office à notre égard, c'est parce qu'il a été homme sur la terre. Il a souffert, il a été tenté. Il est bien dit « à part le péché ». Mais il a su ce que c'était, que, je ne sais pas si j'ai le droit d'employer ce mot, que d'appréhender ce qui est devant, quand il avait devant lui la croix. Et quand il dit « Père, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi », comme pour exprimer cette pensée que ce qu'il avait devant lui était si terrible, s'il avait été possible qu'elle passe loin de lui. Et alors le Seigneur peut entrer dans ce que peuvent être nos craintes et nos appréhensions en présence de ce qui peut être placé devant nous. Il a souffert, il est à même de secourir ceux qui sont tentés. Si nous avons devant nous des choses difficiles par lesquelles nous pouvons avoir à passer, et même lorsque le Seigneur nous appelle dans un service, eh bien, le Seigneur lui-même peut entrer en sympathie, c'est bien ce qu'il est dit au verset 15 du chapitre 4, il peut sympathiser à nos infirmités. Il mesure ce que cela peut nous coûter moralement de passer par tel ou tel chemin. Et alors, le mesurant parfaitement, il est à même de secourir, d'apporter secours. Et alors, nous sommes invités à nous approcher avec confiance du trône de la grâce. L'apôtre Pierre dit « Cette grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu. » Nous avons besoin de la grâce tout au long de notre chemin. Et nous approchons du trône de la grâce, sachant que nous avons besoin de cette grâce. Et nous recevons le secours quand ? Au moment opportun. Pas une dose de secours à l'avance, mais quand le moment est nécessaire, le secours est donné. On est touché de penser que celui qui nous vient en aide dans nos infirmités est celui qui a connu tout ce que représente la vie de l'homme sur la terre dans les difficultés, les épreuves qu'il rencontre. Et le Seigneur en a rencontré ces épreuves quand il a rencontré l'opposition des hommes. On en a évoqué quelque chose. Quand il rencontrait la méchanceté, quand il rencontrait l'incompréhension de ses disciples, c'est pas facile de faire face à l'incompréhension de ceux qui nous sont chers. Peut-être même que nous pouvons rencontrer l'incompréhension de nos frères. Ce n'est pas si facile que cela. Mais le Seigneur est puissant pour et est à même de nous secourir dans ces situations-là, pour nous apporter le secours pour, au moment opportun, pour que nous puissions l'honorer et le glorifier dans toute notre manière d'être.
Juste quelques mots sur Luc 12. Dans ce chapitre, nous voyons des esclaves, des serviteurs du Seigneur Jésus. Et à deux reprises, le Seigneur dit « bienheureux ». Au verset 37, il dit « bienheureux sont ces esclaves que le Maître, quand il viendra, trouvera veillant ». Et verset 43, « bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. » Ça veut dire un serviteur fidèle ou un esclave fidèle est un esclave qui travaille, qui est actif dans le travail, dans l'œuvre du Seigneur. Mais, deuxièmement, un esclave fidèle est un esclave qui veille, qui attend son Seigneur qui revient. Voilà ces deux colonnes de la vie chrétienne. Le service et l'attente du Seigneur Jésus. 1 Thessaloniciens 1, à la fin, ces Thessaloniciens s'étaient tournés vers Dieu pour quoi ? Pour servir le Dieu vrai et vivant et pour attendre son fils des cieux, son fils qu'il a ressuscité des morts. Voilà ces deux colonnes qu'on retrouve en Luc 12. Bienheureux l'esclave qui attend son maître et bienheureux l'esclave qui travaille pour son maître. Alors le moment viendra où le Seigneur de ses esclaves vient. Et alors, la grandeur du Seigneur Jésus devient visible. Il change la place avec ses esclaves. Sur la terre, nous, ses esclaves, ses serviteurs, nous avons servi le Seigneur. Une vie à la disposition de notre Maître. Mais quelle récompense ! Le jour viendra où le Seigneur Jésus ne dit pas seulement « bienheureux, bien fait, fidèle, esclave », mais le Seigneur Jésus se scindra et nous fera mettre à table et il nous servira. Est-ce qu'on peut comprendre cela ? Je ne peux pas le comprendre. C'est incompréhensible. Le Seigneur des Seigneurs, celui qui est haut élevé, il se met à nous servir. Et tu as posé la question, en quoi consiste ce service? C'est une question difficile. Et j'ai l'impression que la parole de Dieu ne nous le dit pas. Mais j'ai lu qu'un frère a écrit le suivant, et peut-être c'est quand même une réponse. Je lis, « Son ministère consiste à nous familiariser et à nous faire connaître toujours plus les gloires de sa personne. » Je trouve ça une belle réponse. « Son ministère consiste à nous familiariser et à nous faire connaître toujours plus les gloires de sa personne. » Aujourd'hui, nous avons contemplé le Seigneur Jésus comme le serviteur. Et nous avons vu des gloires dans l'humilité du Seigneur Jésus. Mais nous avons seulement vu très peu de choses. Combien grand est le Seigneur Jésus ? Dans le ciel, nous le contemplons comme il est. Nous le voyons comme il est. le Fils de l'homme, le Seigneur, celui qui était ici-bas comme serviteur, notre Seigneur, notre Sauveur, comme il est grand.
Il se scindra, les fera mettre à table, et s'avançant, il les servira. Est-ce que ça ne nous rappelle pas une circonstance des évangiles? Si on lit en Jean 13, on voit comment le Seigneur est à table avec ses disciples. Il se ceint aussi. Il les sert, il se met à leurs pieds. On a dit tout à l'heure que le serviteur se mettait aux pieds de ceux qu'il sert. Il se met aux pieds de ses disciples. Dans quel but? C'est l'activité ou le service qu'il accomplit aujourd'hui pour nous de nettoyer les souillures que nous contractons dans le chemin. Mais en rapport avec ce qui est dit, est-ce que nous ne pouvons pas penser justement pourquoi justement il enlève les souillures aujourd'hui? C'est pour nous rétablir dans la communion. Tu n'as pas de part avec moi si je ne te lave pas les pieds, dit-il à Pierre. Et si le Seigneur ne nous lave pas les pieds aujourd'hui, par rapport à toutes les souillures que nous pouvons contracter dans ce monde, en rapport avec notre caractère, en rapport avec les circonstances, le monde qui nous entoure, qui nous envahit bien souvent, et de plus en plus avec Internet qui est dans nos maisons, qui est dans nos poches et qui est partout, et tout ce que nous voyons dans ce monde, dans le chemin dans ce monde. Mais il dit, c'est « si je ne te lave les pieds, tu n'as pas de part avec moi ». Et on peut bien penser, comme l'a dit lu le frère, c'est le Seigneur dans l'éternité, son service, ça sera de nous faire entrer toujours plus. Il nous faudra toute l'éternité pour entrer toujours plus dans la communion à laquelle nous avons été appelés, dont l'apôtre Jean nous parle. Nous sommes appelés à la communion du Père et de son Fils Jésus-Christ. Et c'est bien cela aussi, probablement, que le Seigneur pourra faire durant l'éternité pour nous.